Fièvre, un film de Victor Schertzinger raconté par Louis Delapré. Cinq hommes et une femme, à la saison des pluies, dans une province fiévreuse au nom espagnol doux comme de l'eau fraîche, à 50 000 au sud de l'équateur. C'est tout. Mais ça suffit au hasard ou au destin pour cuisiner un de ces drames qu'on n'oublie pas. C.B. Shelton était arrivé après, bien après les autres, avec son mari, Wilson Shelton, un bon petit jeune homme qui avait fait quelques bêtises dans un pays civilisé. Un beau jour, on les avait vus descendre d'un petit canot à 20 pas de la maison humide et vermoulue où Dan Cardan, Hans Winter, Hugh Pickrell et Kilgore Shelton végétaient dans la chaude haleine de leur puits. Ils portaient des vêtements bien repassés, frais sortis d'une confortable armoire. On aurait juré qu'ils se croyaient encore à New York, Londres ou Paris. Kilgore, leur frère, avait vainement essayé de mettre un peu d'ordre dans la maison et avant toute chose, il avait mis Goldie sous clé. Goldie, oui, une aimable fille, connue de tous les prospecteurs à 15 lieues à la ronde. Dans le district, on disait plaisamment d'un nouveau venu un peu niais. Il n'a pas fait connaissance avec tous les grains de beauté de notre Goldie. Je pense que vous comprenez à demi-mot que Goldie n'était pas farouche. Kilgore était allé la chercher dans le bouge dont elle avait fait son quartier général, à 2 jours de marche des puits, et l'avait ramenée avec lui. Il crevait de tristesse en la compagnie de Cardan, Pickrell et Winter, et croyait qu'une femme, même une femme comme celle-là, pourrait le sauver. Mais il ne se souciait pas de la mettre en présence de sa belle-sœur. Malgré 18 mois de vie dans cet enfer, il avait miraculeusement préservé en lui le sens des convenances. Sibyl et son mari entrèrent dans la maison. La jeune femme ne jeta pas le moindre regard de dégoût autour d'elle. Elle ne voyait que son mari. Elle était là pour lui, pour l'aider à refaire sa vie. Tout le reste ne la regardait point. Elle répondait avec grâce aux fadaises de Pickrell et de Winter. Sa robe claire, son sourire et le parfum léger qui flottait sur sa gorge avaient subitement transformé cette misérable paillote, cette bauge. Mais tout redevint terrible, désespéré, lorsque Dan Cardan, qui dormait à l'arrivée de la belle dame, se leva et vint vers elle. Dan Cardan, une montagne. Il était grand comme 2 hommes normaux, comptait ça en pieds et en pouces, et large comme 4. C'était le prospecteur qui avait le plus de flair pour découvrir sous les schistes, à 300 mètres de profondeur, dans les entrailles de la terre, une belle nappe de pétrole. Mais ses capacités d'administrateur ne valaient pas sa divination de chercheur d'or noir. Régulièrement, on lui soufflait ses découvertes. Et l'homme qui papillonnait autour de C.B. Shelton, Hans Winter, était celui qu'il avait le plus volé. Mais ceci est une autre histoire. Comme le disent Kipling et les 17 935 narrateurs qui le singent. Cardan s'approcha pesamment du couple Shelton et demanda « Qu'est-ce que cette dame vient faire dans nos parages ?» Un petit silence tomba comme une pierre. Enfin, Wilson Shelton répondit. En 5 mots, il conta son histoire. La figure de Cardan s'empourprait. Les veines de ses tempes durcirent. On voyait le sang battre là-dedans, et tout à coup, cela partit comme un paquet de chédite. Cardan injuria Wilson. Il lui cria qu'il fallait être un criminel ou un fou pour amener une femme honnête dans un lieu pareil où sa vertu, sa pudeur, son amour, tout ce qui faisait enfin qu'elle ne ressemblait pas à Goldie, disparaîtrait en 15 jours. Et comme Sibby Shelton protestait en lui déclarant qu'elle ne craignait rien, que son amour pour son mari la protégerait contre la solitude et les embûches du climat, Cardan éclata de rire sauvagement et lui dit « Vous serez une femme perdue avant la fin de la saison des pluies. Mais je vous donne encore une chance de vous échapper. Le jour où vous négligerez de vous peigner, de vous poudrer, partez. Partez sans tourner la tête, même si vous deviez laisser votre mari derrière vous. Ce sera le dernier avertissement. » Pour toute réponse, Sibby se pencha vers son mari et lui baisa la nuque. 2 jours plus tard, Wilson partit, laissant sa femme à la garde de son frère Kilgore. Il allait dans la forêt chercher son puits. Le lendemain, les grandes pluies se déchaînèrent. Le toit de tôle de la maison retentissait comme un immense tambour. On n'entendait que cette voix sourde et par instant, entre 2 rafales, le halètement des pompes à pétrole. L'eau commença bientôt à tomber sur le sol, goutte à goutte, par une fissure. quelqu'un mit un bassin de cuivre au point de chute. Il y eut alors, toutes les 3 secondes, le bruit d'une goutte d'eau qui tombait. Toutes les 3 secondes, les grandes pluies sur le toit vibrant, le halètement des pompes, et cette goutte d'eau. Ce fut ainsi pendant des jours et des jours. Sibby sentait quelque chose s'approcher d'elle à pas de loup, une chose terrifiante et sans visage, une chose qui avançait d'un pas avec chaque goutte de pluie tombée dans le bassin de cuivre. Les 4 hommes se tenaient autour d'elle dans la salle commune. Parfois ils jouaient aux cartes, parfois ils buvaient. Ils buvaient sans arrêt, comme s'ils avaient voulu se tuer. Ils n'avaient même plus le courage de se quereller. Le plus souvent, ils ne disaient rien, ils ne bougeaient pas. Ils regardaient Sibby pendant des heures. Et l'on voyait leurs mains remuer sur leurs genoux, comme des bêtes animées d'une vie indépendante. Cardan, de temps à autre, poussait un sauvage éclat de rire. Un jour, il dit à Sibby : « Prenez garde, les temps sont venus. Vous ne vous êtes pas peigné ce matin. Il y a une semaine que vous n'avez pas changé de robe. » Elle ne répondit rien. Elle passait sa vie courbée sur un ouvrage, tirant fiévreusement l'aiguille pour ne pas entendre le souffle oppressé des hommes et le bruit d'insectes que faisait sa pensée dans sa tête. Un soir, la nuit tombée, il y eut une accalmie. Cardan courut aux pompes. Sibby et son beau-frère sortirent sous les palmes. Il faisait encore plus chaud dehors que dans la maison. La nuit leur souffla sa respiration d'étuve à la face. Tout à coup, avec un gémissement, Kilgor serra Sibby contre lui et sa bouche s'appuya sur la gorge tendre. Des mots suppliants s'échappèrent entre 2 baisers. La jeune femme sentit une faiblesse dans les genoux et s'accrocha aux épaules de son beau-frère. Une pensée naquit en elle. Elle la chassa. Elle s'efforça de penser à son mari. Vainement. Trop loin. Il était trop loin. Alors elle s'enfuit dans sa chambre, ferma la porte au verrou, s'assit devant sa table de toilette et regarda son visage. Une ride, une autre, une autre. Un bruit de serrure forcée. Hans Winter bondit dans la chambre et se jette sur elle. Sibby crie, se débat, griffe, mord. Mais elle va succomber. Elle sent en elle une honteuse faiblesse qui se fait la complice de l'homme. Un coup formidable dans la porte, le panneau de bois éclate, paraît Cardan, formidable. Les 2 hommes se battent, interminablement. Sibby, accroupie dans un coin de la chambre, les regarde, les yeux dilatés, immenses. Elle appartient déjà au vainqueur. Elle lui cède d'avance. 2 hommes luttent pour conquérir une femme. La civilisation est abolie, sauvagerie des anciens âges. Enfin Cardan assomme son adversaire et le jette à la porte comme un sac. Ses bras autour de Sibby. Elle baisse le sang qui coule sur son visage. Elle se rend. « Emmenez-moi, » lui dit-elle. « C'est vous que j'attendais. Emmenez-moi loin d'ici. »« Oui, » répond la grosse voix d'orage. « Mais moi, je ne vous lâcherai jamais plus. » Wilson revint le lendemain. Aussitôt Sibby se jeta dans ses bras. Cardan comprit ou crut comprendre. Il dit à Wilson, « L'un de nous est de trop ici. Jouons nos puits. » Le mien est celui que tu as trouvé. Le vainqueur garde tout. » Ils jouèrent. Cardan vit qu'il avait gagné. Il regarda Sibby. Il regarda Wilson. La jeune femme avait les yeux fixés sur son mari. Cardan eut pitié de ces 2 pauvres gosses et abattit son jeu en disant « J'ai perdu. » Et aussitôt son cœur se gonfla d'une sauvage allégresse. Il était maître de sa vie. Il avait contre lui-même gagné la partie. Sa partie. C'était Fièvre, un film de Victor Schertzinger, raconté par Louis Delapré.